Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour les 28 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. En deuxième partie d'émission, je vous propose une discussion avec Hubert Chrétien, lui qui est cofondateur et directeur général de l'organisme Liberté en profondeur, qui a eu un jour l'idée folle, ou on pourrait dire aussi l'idée audacieuse, l'idée tout simplement génial, d'enseigner la plongée sous-marine à des personnes qui ont un handicap physique. Il fait ça depuis plus de 20 ans et il est l'une des seules personnes, en fait, il y a deux personnes dans le monde qui ont toutes les certifications pour faire ça. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir de lui parler tout à l'heure à Hubert Chrétien, qu'on joindra du côté de Gatineau. Et puis, en mai 2014, vous dire que l'Organisation mondiale de la santé révélait que la principale cause de maladie et d'incapacité chez les adolescents était la dépression. Donc, un phénomène qui s'articule, qui s'étend un petit peu partout dans le monde. Il y a de quoi être préoccupé et je pense qu'il faut faire le constat d'entrée de jeu, accepter que les maladies mentales, ça ne touche pas que les adultes. Hein. On aurait d'entrée de jeu cette idée-là. Non, ça peut toucher les enfants, les adolescents aussi. C'est un problème qui est réel, mais aussi difficile à cerner. Comment on peut favoriser la santé mentale de nos adolescents? J'en parle à l'instant avec Dr. Frédéric Benoît, lui, pédopsychiatre à l'hôpital Charles Lemoine, Hélène Bellavance, directrice du développement et des communications à la Fondation des maladies mentales. Docteur Benoît, bonjour.
Oui, bonjour.
Lynn Bellavance, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être là, de participer à cette discussion qui est, à mon sens, essentielle. Je disais, d'entrée de jeu, oui, difficile à cerner les problèmes de santé mentale auprès des adolescents parce que c'est une période qui est vraiment empreinte de plein de bouleversements, de changements, autant d'ordre physique, hormonaux aussi, là, mais aussi tout dans le contexte social, familial, scolaire. Pour nous aider un petit peu à cerner, à mieux comprendre, Dr. Benoît, c'est quoi les principales maladies mentales qui affectent les adolescents?
Bien, l'adolescence, c'est vraiment le début de où on voit apparaître les principales maladies mentales qu'on va revoir plus tard à l'âge adulte. Donc, on peut revoir à peu près tous les psychopathologies qu'on voit à l'adulte. Mais ce qu'on va voir principalement, c'est les troubles de l'humeur. Donc, on peut penser à l'épisode dépressif majeur ou même les débuts de maladies de type bipolaire. Ce qui est très fréquent également, c'est les troubles anxieux. Donc, on peut penser aux attaques de panique, à l'agoraphobie, aux troubles obsessionnels compulsifs ou à des états de stress post-traumatique. Sans ça, c'est sûr qu'il y a le développement également de tout ce qu'on appelle les toxicomanies, donc les dépendances, les abus aux substances et à l'alcool. Et oui, également, dans plus de tiers des cas, les troubles psychotiques vont émerger avant le début de l'âge adulte. Donc, c'est les grandes pathologies qu'on rencontre la période de l'adolescence, dès le début de l'âge, de cet âge-là, ouais.
Les chiffres de 2014 publiés par l'Organisation mondiale de la santé sont préoccupants. Lynn Bellavance, je vous passe le micro, je dirais, la parole. Comment est-ce que c'est un phénomène nouveau? Comment on peut expliquer des chiffres si élevés que ça?
C'est pas un phénomène nouveau. La santé mentale, les problèmes de santé mentale, c'est encore très tabou aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, d'autant plus chez les adolescents ou les enfants. Je pense qu'on est de plus en plus conscientisé qu'il peut y avoir des problèmes de santé mentale vécus par des jeunes. Si on en voit de plus en plus, je crois que c'est peut-être plus la détection précoce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un boom dans les chiffres, les statistiques qu'on voit. Pour revenir sur ce que le docteur Benoît disait, on parle de... il y a une petite statistique, qui dit qu'il y a un grand nombre de de maladies mentales qui se développent, comme M. Benoît le mentionnait, là, à l'adolescence. Donc, c'est pour ça qu'à la Fondation des maladies mentales, on a vraiment été précurseurs avec le conseil d'administration et un comité d'experts pour mettre sur pied le programme solidaire pour la vie, pour faire de la sensibilisation auprès des adolescents secondaires 3, 4, 5 dans toutes les écoles du Québec pour parler de santé mentale, mais pour aussi faire de la sensibilisation.
Bien sûr, on y reviendra un petit peu plus tard lors de la discussion de ce programme de sensibilisation. Docteur Benoît, comment on peut identifier les causes de la maladie mentale chez les adolescents?
C'est une bonne question. En règle générale, la maladie mentale, c'est multifactoriel. Donc, on peut le décortiquer là, classiquement en cause d'abord biologique. Hein. Au niveau biologique, il y a toujours un bagage génétique qui nous est donné. Donc, quand un membre de la famille souffre d'une maladie mentale, ça met l'adolescent plus à risque que la population générale à développer une maladie mentale. Mais sans ça, on peut penser à d'autres causes biologiques. Ça serait les traumas crâniens, ça serait l'utilisation de certaines médications, ça serait l'utilisation, bien entendu, d'alcool et de drogue. Donc, tous ces facteurs-là peuvent être des facteurs prédisposants ou précipitants. Sans ça, il y a des facteurs de nature psychologique. Donc, comment le jeune se développe, quel est son tempérament, sa personnalité, comment il a développé ou pas une estime de lui-même solide, comment le jeune s'outille à travers l'enfance et le début de l'adolescence avec divers mécanismes psychologiques, donc sa capacité à réguler ses émotions, sa capacité à mentaliser, donc à faire des liens sur ses états émotifs et cognitifs et faire la même chose pour l'autre. Et finalement, il y a tout le contexte social, donc les facteurs sociaux, donc l'environnement à la fois familial, mais l'environnement, donc les groupes de pairs, comment ça fonctionne à l'école. Est-ce qu'il y a des stresseurs à ces niveaux-là ou au contraire des outils qui le supportent et qui favorisent une meilleure santé mentale? Donc, c'est dans les grandes lignes, c'est les trois grandes sphères qu'on dit le bio-psychosocial qui sont à la fois des facteurs soit de risque, mais aussi où on peut développer des facteurs protecteurs.
Et ça, bien sûr, on va y revenir aux facteurs protecteurs, ce que j'aimerais questionner avant, c'est lorsqu'on a identifié ces facteurs de risque-là, est-ce qu'il est plus aisé de faire du diagnostic précoce?
Bonne question. C'est-à-dire que c'est lors de notre évaluation qu'on va essayer d'identifier effectivement quels sont les facteurs de risque. Si je comprends bien votre question, c'est plus comment on peut identifier précocement un jeune qui pourrait développer une maladie, c'est ça que je comprends?
Mais aussi, lors de ces rencontres avec le programme de sensibilisation, on rencontre les jeunes, on discute avec eux, on voit de quel milieu ils viennent, quel genre d'expérience ils ont vécu. Est-ce qu'on est à même de mettre autour d'eux certains paramètres de sécurité, de protection à ce moment-là?
Écoutez, c'est sûr que la question pour moi n'est pas tout à fait précise.
Mais je vais relancer la balle à Mme Bellavance parce que c'était une question peut-être un petit peu plus pour elle. J'aurais peut-être dû l'identifier, mais à savoir avec ce programme dont il a été question tout à l'heure, vous les rencontrez, les jeunes, vous êtes sur le terrain, vous êtes là pour un petit peu voir leur parcours et ce dont ils ont besoin pour se réaliser pleinement.
C'est des rencontres quand même qui sont assez brèves. C'est de 50 à 75 minutes. On a 5 équipes de 2 animateurs, donc 10 animateurs qui parcourent le Québec dans toutes les écoles pour présenter cette animation-là qu'on appelle « Solidaire pour la vie ». Et dans le fond, on leur parle de santé mentale et on leur parle aussi des signes et symptômes de la dépression. On essaie aussi de dire aux jeunes de ne pas se faire d'autodiagnostic, évidemment, parce que on peut avoir différents symptômes qui peuvent être autre chose qu'une dépression. Il peut avoir une petite déprime aussi passagère. Ça peut arriver à un moment donné où on a une difficulté dans la vie, mais qu'on réussit à surmonter. Là où on essaie vraiment d'outiller les jeunes, c'est de leur dire quand il y a une rupture dans le comportement. On fait la même chose aussi, cette présentation-là, aux parents et aux intervenants enseignants dans les écoles. Quand il y a une rupture dans le comportement, c'est un signe assez clair qu'il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, c'est important d'aller un petit peu plus loin, d'investiguer. On a une jeune, récemment, on a eu un petit témoignage, Puis elle, tous les intervenants lui disaient, ça va pas bien, on le voit que tu vas pas bien, tu vas consulter. Elle le faisait pas. Quand elle a eu l'animation de Soldats pour la vie dans sa classe, elle est allée directement voir l'intervenant de l'école parce qu'en plus de leur donner des mots pour décrire peut-être des choses qu'ils sont en train de vivre, on leur donne aussi les informations sur les ressources disponibles dans l'école. Une personne significative, les intervenants de l'école, les ressources alentour de l'école ou dans leur quartier, qui font en sorte que les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes. S'ils ont des questions, s'ils se sentent moins bien ou s'ils ont peut-être un ami qui pense que cet ami-là va pas bien. On veut pas que les jeunes se transforment en thérapeutes, mais on leur donne des outils justement pour accompagner le jeune puis dire, bien, toi, t'es mon ami, je t'aime, je veux que tu ailles bien et je pense que ça va pas. Viens avec moi, on va aller voir l'intervenante ou la psychologue de l'école.
Donc, les amis, les intervenants de l'école, ce sont peut-être des facteurs de protection. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, sûrement. Il y en a d'autres. Comme je vous dis, un des facteurs de protection, c'est de développer une saine santé mentale, donc de trouver un équilibre. Donc souvent, on définit la santé mentale comme étant un équilibre, donc la capacité de pouvoir gérer les différents stresseurs dont on fait face. Donc ça, encore là, c'est souvent des mécanismes adaptatifs que les jeunes ont développés au fil des années. Donc de choisir des bonnes relations, d'avoir un milieu de vie sain, d'avoir une dynamique familiale qui va être supportante, soutenante. C'est sûr que l'utilisation des drogues, de l'alcool, il faut s'en tenir loin le plus possible. On sait que le cerveau de l'adolescent est un cerveau qui est en pleine croissance et en plein développement. On sait que c'est une période de plus grande vulnérabilité. Donc, les toxiques mis sur un cerveau en développement ont un impact beaucoup plus important que sur un cerveau adulte.
Mm-hmm.
Sans ça, c'est effectivement d'être capable d'avoir des groupes de pairs, donc des amis qui vont être supportants. Donc c'est un ensemble de choses, je pense, qui fait qu'on peut avoir une santé mentale équilibrée.
Oui. Maintenant, on parlait tout à l'heure de rupture dans le comportement.
Oui.
Et j'avais envie de vous relancer en disant, bien, souvent, lorsque l'on arrive à l'adolescence, il y a une rupture de comportement. comment on peut outiller les parents à savoir comment départager la crise d'adolescence et des comportements qui seraient plus inquiétants, qui seraient peut-être plus indicateurs d'une dépression, par exemple?
Ouais, c'est une bonne question. C'est souvent une question qu'on nous pose d'ailleurs, parce que parfois, certains comportements des adolescents sont atypiques, je dirais, pour un cerveau d'adulte. Par contre, pour les adolescents, c'est quelque chose qui se comprend. Ce que je dirais aux parents, c'est qu'il faut observer effectivement un bris de fonctionnement, donc une rupture dans le fonctionnement. Donc, un jeune qui, par exemple, peut aller à l'école et ça fonctionnait bien, donc s'il veut plus aller à l'école ou, par exemple, ses notes sont en chute libre dans les derniers mois, un jeune qui avait des amis, qui socialisait et pouf, soudainement, il veut plus voir ses amis, il se retire, il s'isole. Ça, c'est des indices qui doivent nous inquiéter. Un jeune qui se mettrait à avoir des troubles de sommeil récurrents ou qui aurait des altérations au niveau, par exemple, de l'appétit ou une chute de poids remarquée. Donc ça, c'est des indices clairement qui devraient alerter les parents.
Est-ce qu'on peut ajouter aussi le fait, bien, je pourrais me corriger, là, docteur Benoît, qu'il y a quand même la rupture de comportement, mais aussi une certaine durée dans le temps?
Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut que... pas que ces événements-là soient ponctuels et qu'ils ne durent qu'à quelques minutes. On s'attend à ce que ce bris de fonctionnement-là soit présent depuis un certain temps. On peut parler d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc, il faut que la symptomatologie soit présente pendant quand même un certain temps pour que finalement les gens s'en inquiètent et fassent des démarches pour aller consulter.
J'imagine que l'un des facteurs de protection aussi, c'est le dialogue avec le parent, c'est-à-dire cette espèce de protection, de sécurité.
On le souhaite ardemment.
Évidemment, et ça peut être difficile un petit peu à préserver pendant ces moments-là. Est-ce qu'il y a des outils pour les parents afin de garder la discussion, le contact avec leur ado?
Oui, encore là, c'est une question assez pertinente et qu'on nous demande souvent. C'est pas simple, hein. Je dirais que être parent d'adolescent, c'est sûrement le rôle le plus Le plus difficile que quelqu'un, je pense, est amené à jouer. En même temps, probablement un des rôles les plus importants et les plus gratifiants, mais parfois très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau de l'adolescent n'est pas du tout comme celui des adultes. Et je pense que comme adulte, parfois, on oublie ça.
Ouais.
Et on oublie de comprendre et de finalement de valider ce que l'adolescent peut vivre ou peut avoir comme expérience. Je dirais que le conseil général que je donnerais, en même temps, il n'y a pas de parents parfaits, puis heureusement, il faut pas que les parents soient parfaits, mais ça serait d'éviter les extrêmes, donc d'éviter d'être soit trop strict, trop rigide, ou l'inverse, d'être trop, de tout laisser aller, de plus mettre de règles, quoi que ce soit. Et les adolescents, l'adolescence, c'est une période des extrêmes, hein, où les adolescents poussent souvent les limites, mais les limites sont nécessaires. Donc, ce que je dirais aux parents, c'est qu'ils doivent apprendre à naviguer, je dirais, dans la voie du milieu, hein, dans une voie intermédiaire entre ces extrêmes, ce qui n'est pas une tâche nécessairement facile. Mais effectivement, je pense que un des éléments souvent qu'on remarque, c'est la difficulté de certains parents de valider l'expérience des adolescents. Par exemple, un adolescent qui va vivre une peine d'amour, ce qu'on sait, c'est que la peine d'amour pour un adolescent, c'est beaucoup plus taxant et beaucoup plus demandant sur le plan affectif que ça pourrait l'être pour une peine d'amour chez quelqu'un de 30 ans ou de 40 ans. Alors, pour un cerveau adulte, une peine d'amour, c'est grave, mais c'est pas si grave. Alors que pour un adolescent, souvent, c'est la fin du monde. Et donc, les parents peuvent avoir tendance parfois à minimiser ça en disant, bah, c'est pas grave, tu vas en avoir d'autres, des conjointes ou des conjoints. Puis, alors, souvent, on a tendance à minimiser ce que l'adolescent peut vivre. Moi, ce que je dirais aux parents, c'est d'essayer de valider l'expérience que le jeune vit, ce qui permet de rester en lien avec son adolescent. Et en même temps, de garder une certaine position intermédiaire. C'est pas non plus de uniquement valider. Il faut continuer à garder le rôle de celui qui met les règles, de celui qui met les limites. Alors, c'est vraiment de trouver, je dirais, une position intermédiaire, donc de marcher dans la voie du milieu.
Ce qu'on conseille souvent dans les rencontres avec les parents ou même les intervenants, parce que la présentation qui est faite est offerte aussi dans les écoles pour les parents et les intervenants, c'est de vraiment garder l'esprit ouvert. Comme le docteur Benoît le disait, de ne pas banaliser les peines ou les échecs que l'adolescent peut vivre et d'essayer de garder le dialogue ouvert, donc une certaine réceptivité à leurs problématiques. On dit aussi aux adolescents, des fois, bon, ça se peut que le dialogue est plus difficile avec certains parents, de se tourner vers un adulte qui est signifiant pour eux. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un enseignant, ça peut être même le concierge de l'école. On a eu ce témoignage-là d'un jeune qui vivait des moments très difficiles et qui, lui, dit, moi, je suis allée parler au concierge de l'école parce que c'est un adulte en qui j'avais confiance et il m'a très bien conseillé. Et puis, il est allé consulter. Ça l'a vraiment amené une progression dans sa démarche de comment lui se sentait comme adolescent. Donc, vraiment de garder le dialogue ouvert le plus possible, ce qui est pour un parent est souvent peut-être le plus dur à faire.
Oui. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que vous pouvez être cet adulte signifiant pour un adolescent de votre entourage. Gardez les yeux bien ouverts, les oreilles également, parce que vous pourriez être d'une aide bien précieuse. Le temps file, on va devoir se laisser. C'est un sujet qui aurait été encore tellement pertinent à élaborer, essentiel, je le rappelle. Je termine avec une question pour vous, Lynn Bellavance. Solidaire pour la vie, c'est un programme qui touche énormément de jeunes, là, 50 000 par année dans des écoles secondaires partout au Québec. C'est gratuit. S'il y a des directeurs d'école qui nous écoutent, là, ils font comment pour avoir accès à ce programme-là?
Ils peuvent communiquer avec la Fondation des maladies mentales, soit en visitant notre site Internet, qui est www.fondationdesmaladiesmentales.org.
Oui.
Et on ne reçoit aucune subvention aucune subvention pour aller rencontrer les jeunes dans les écoles. Donc, il y a un gros travail qui est fait de sollicitation auprès de la population, de générosité, évidemment, parce que tous les dons reçus servent à mettre sur pied ce programme-là année après année pour rencontrer tous les jeunes à chaque année.
Dr. Frédéric Benoît, pédopsychiatre à l'hôpital Charles-Lemoine, Éline Bélavance, directrice du développement et des communications à la Fondation des maladies mentales. Merci à vous deux pour vos lumières. Merci. Très appréciées.
Je vous remercie.
Au revoir. Bonne journée.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Hubert Chrétien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur général de Liberté en profondeur. Un rêve un peu fou, le rêve d'un passionné. C'est comme ça que l'on vous décrit lorsque l'on lit sur vous, Hubert Chrétien. Donc, vous offrez des cours de plongée sous-marine à des personnes qui vivent avec différents handicaps. Et on dit que vous refusez peu de gens. À quoi ressemble votre clientèle? Qui peut plonger avec vous, Hubert Chrétien?
On refuse peu de gens qui ne sont pas contre-indiqués médicalement à la plongée sous-marine. Parce que une personne qui a une mobilité faible, on peut travailler avec ça. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui pouvaient seulement bouger leur tête. Mais il faut s'assurer que les gens n'aient pas de contraintes médicales. C'est la première chose. Mm-hmm. Et puis, il faut s'assurer aussi que les gens aient une bonne capacité cognitive parce que c'est un sport qui peut être dangereux si on ne comprend pas ce qui se passe. En plongée sous-marine, si on retient son souffle en montant, c'est désastreux. Donc, il faut savoir que les gens, on peut prédire leur comportement. Donc, c'est des handicaps physiques et c'est des gens qui ont des handicaps physiques et qui n'ont pas d'autres conditions médicales qui peuvent être contre-indiquées à la plongée sous-marine. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas faire de plongée sous-marine pour des raisons médicales multiples et à ces gens-là, on peut leur offrir une autre activité qui est l'apnée. Moi, j'ai écrit des standards qui sont utilisés mondialement maintenant pour l'enseignement de l'apnée aux personnes handicapées. Et puis, l'apnée est beaucoup plus accessible que la plongée sous-marine. Une personne qui fait de la plongée sous-marine avec nous, souvent, s'ils sont très handicapés, doit être encadrée de personnes qui sont qualifiées pour s'occuper d'eux dans l'eau, tandis que en apnée, ils ont besoin de beaucoup moins d'entraînement et d'encadrement.
Quels sont les bienfaits maintenant pour les personnes qui plongent avec vous, Hubert?
Ça dépend. Certains handicaps physiques bénéficient beaucoup physiquement de la plongée sous-marine, mais ce n'est pas la majorité. Les gens qui ont de la paralysie cérébrale ont un effet hyperbare et puis ça leur enlève de la douleur, puis ça leur permet d'aller chercher beaucoup de motricité, puis c'est du bon exercice. Mais pour la majorité des personnes handicapées qui plongent, c'est seulement des bénéfices de bien-être. Dans le sens que, premièrement, la majorité de mes étudiants, c'est des gens qui sont blessés dans des accidents. Puis c'est des accidents aventureux. Moi, je dis toujours que tu ne te casses pas le cou en jouant au golf. Donc, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont déjà passionnés de l'aventure. Donc, c'est des sports d'aventure, puis ça leur permet de pratiquer des sports où ils font de l'exploration, de la découverte et de l'aventure. Et puis, ça a certains bénéfices aussi au niveau de la progression qui se passe après quelqu'un a une perte pour le restant de ses jours. Perdre sa mobilité, c'est un peu comme perdre un être cher, c'est une perte permanente. Mm-hmm. Et puis pour avoir une bonne qualité de vie, il faut en venir à une acceptance puis une intégration. Puis la première étape pour en venir à une acceptance puis une intégration, c'est de se réengager avec son environnement.
Oui, et d'avoir l'impression que il n'y a pas que des limites, mais plein de possibilités. Et c'est ce que vous offrez à ces personnes-là qui plongent avec vous. Est-ce que l'équipement doit être adapté? À quoi il faut penser? Comment s'y préparer?
Les techniques doivent être adaptées. Mmh. L'équipement, moi, j'aime pas les grosses adaptations de Batman spéciales pour la plongée sous-marine avec personnes handicapées. Moi, j'aime utiliser le plus possible de l'équipement normal. On veut que ce soit une activité normalisante. Un exemple, c'est des gants palmés. Tout le monde pense que j'enseigne aux gens à utiliser des gants palmés. Ben non, je m'en sers pas parce que, premièrement, ça t'handicape les mains. Tu peux pas travailler ton équipement aussi bien. Puis si je t'enseigne de nager avec des gants palmés, tu t'en vas en voyage, puis tu es obligé de tes gants palmés chez vous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu trouveras pas ça. Donc, on enseigne des gens à travailler le plus avec des choses le plus normal possible. C'est sûr que certains équipements de haute qualité qu'on préfère, mais on n'utilise pas beaucoup de choses vraiment adaptées. On a des petites choses spéciales qu'on fait, là, comme il y a certaines personnes qui ont des besoins médicaux spéciaux, puis on crée certaines modifications dans des habits isothermiques pour accommoder ça.
Donc, la personne plonge en tandem avec vous, bien sûr, Hubert. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, aussi une troisième personne pour veiller à ce que tout se passe bien?
C'est plus compliqué que ça, là. Ça dépend vraiment de la personne. Nous autres, on a deux choses qui nous inquiètent en plongée avec une personne handicapée. C'est la sécurité de la personne handicapée, mais c'est aussi la sécurité des gens qui plongent avec une personne handicapée.
Oui, bien sûr.
Donc, la première question, c'est est-ce que la personne handicapée peut s'occuper de son binôme? Mm-hmm. Si la personne ne peut pas s'occuper de son binôme, ça y prend deux binômes. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que cette personne-là a besoin d'assistance, là. Donc, on peut certifier quelqu'un que sa seule condition, c'est que ça y prend deux binômes. Parce que la personne est très indépendante dans l'eau, mais moi, si je fais une crise cardiaque, je suis faite, elle ne peut pas me ramener au bateau. Mais il y a des personnes qui ont besoin de plus d'assistance. Eux autres, c'est des plongeurs niveau C. Ils sont qualifiés pour plonger avec deux personnes, mais ça prend une personne qui est qualifiée pour les assister. Mm-hmm. Puis ça peut être une personne qui n'est pas capable de gonfler sa veste oralement, qui est assez difficile, mais qui peut faire tout. On ne fait pas de discrimination entre cette personne-là et la personne qui est obligée de nager pour puis pincer le nez en descendant. La minute qu'ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, ça c'est rien qu'une seule chose qu'on est obligé de faire pour eux, là, ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Mais par contre, moi, j'ai des paraplégiques que vous feriez une crise cardiaque dans le fond de l'eau. Ils vont vous ramener en surface, ils vont mettre de l'air dans votre veste, ils vont enlever vos plombs, vont vérifier que vous ne respirez pas, puis vont commencer la respiration.
Ce que j'entends bien, Hubert Chrétien, je dois vous couper, il reste 20 secondes, mais ce que j'entends bien, c'est que c'est du cas par cas. On glissera le www.fadc.ca sur notre site pour en savoir davantage. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Liberté en profondeur. Merci beaucoup, Hubert Chrétien.
Au revoir.
À demain, tout le monde. 14h. Bye-bye.